Rituel des sens. Le podcast qui revisite les rituels de beauté du monde pour faire voyager vos sens.
Je suis Nathalie Boucheron-Poirot, la cofondatrice de 5 Mondes, et je serai votre hôte dans cette exploration. Créé en 2001, 5 Mondes est le spécialiste du spa et des soins professionnels inspirés des médecines traditionnelles. La marque explore la sagesse ancestrale des rituels de mieux-être du monde entier pour la peau, le corps, mais aussi les énergies et les émotions. Ce podcast donne la parole à des experts qui vous invitent à découvrir ou redécouvrir des techniques régénérantes pour vous offrir la plus immersive des parenthèses holistiques. Bonjour et bienvenue Asma. Mon cœur est rempli de joie. Ça fait quelques temps qu'on ne s'est vu. Et que tu sois la femme qui a ouvert les portes de l'Orient à 5 Mondes, à Casablanca, c'est vraiment un honneur que tu me fais. Merci.
Bonjour Nathalie. Je suis moi-même très honorée de cet appel et de ce contact. Je porte toujours dans mon cœur l'expérience que nous avons vécue ensemble, tant sur un plan professionnel que sur un plan familial, lors du lancement du premier spa 5 Mondes à Casablanca.
Tu n'as pas fait que lancer 5 Mondes, tu es une femme établie et c'est pour cela, en tant qu'experte des rituels du hammam de l'Orient, tu es la femme qui, je pense, peut porter cette parole de façon admirable.
Merci.
Quand je suis arrivée à Casablanca, j'ai eu un choc esthétique grâce à cette beauté orientale que tu m'as fait découvrir. Moi, je trouve que l'Orient, c'est une ode au corps, à la vie, au plaisir. J'ai vraiment eu cet émoi et tu m'as vraiment accompagnée dans cette découverte de Casa, de cette très belle mosquée et ce hammam. Et j'aimerais justement que tu me parles de ces grands principes de l'art du bien-être et de l'hospitalité en Orient. Et voilà, ouvre-moi ton cœur, Asma.
Bah écoute, Nathalie, je te remercie d'abord de m'avoir fait confiance pour cet échange qui m'enrichit. Et je dois dire que l'Orient fait partie de moi-même et le hammam fait partie de mon enfance. Alors, quand on parle des principes de l'art du bien-être en Orient, le bien-être se décline sur plusieurs axes, mais en Orient, il commence toujours par le bain, parce que c'est une façon de se purifier et de préparer le corps à tous les bienfaits des soins et des produits du terroir. On sait très bien que quand le bien-être intérieur est bien, il se révèle grâce aux différentes étapes de beauté physique extérieure. Dans l'approche du hammam, pourquoi cette approche est importante? C'est parce qu'aucune partie du corps n'est laissée pour compte. On soigne les cheveux avec la coloration naturelle à l'époque, et je me rappelle très bien des séances de hammam avec maman quand j'avais 4 ans. Et donc, même avec un choix de couleur, il y a le henné pour les cheveux roux, il y a les clous de girofle et le tanin pour la couleur noire, etc. On s'occupe aussi des cheveux pour les parfumer avec un voile toujours boisé d'ambre, de santal ou de musc, pour qu'il y ait ce voile olfactif qui est très sensuel chez la femme. On ne néglige pas l'épilation qui se fait au sucre ou au miel avec vraiment une chasse à tous les poils pour révéler la douceur de la peau. Et puis certaines femmes s'amusent même à préparer leur propre mixture d'huile végétale aux senteurs toujours chaudes pour hydrater et relaxer le corps. Et généralement, ça tourne toujours autour du oud, du patchouli, du cèdre, du santal, etc. Et puis, il y a aussi la tradition de l'ornement des mains avec ces dessins de tatouage qui se font le plus souvent au henné, mais il y a également une recette millénaire ottomane, je suppose, qui existe en Turquie et en Tunisie, et qui consiste à faire des tatouages avec une recette de clou de girofle et de tanin naturel et qui sont très très bons et qui durent un moment et qui donnent une couleur noire et qui se fait aussi pour les pieds.
Est-ce que tu pourrais nous parler justement de ce que peut apporter les bains morts, le hammam pour améliorer sa santé et puis voilà, nous parler de ce parcours aussi qui est une oscillation entre le chaud, le froid, les chocs thermiques, puisqu'on passe de la chambre froide, Bharani, à la chambre tiède, Wastani, et la chambre chaude, Juvani. Qu'est-ce que cette marche vers le bien-être nous apporte avec toute la culture que tu as de ces produits dont tu nous as déjà très très bien parlé?
Alors, il est vrai que le hammam en Orient est lié un petit peu au sacré parce qu'il se conjugue avec toutes les occasions. Il est lié à la prière, au rite de la prière. Mm-hmm. Déjà, on doit toujours se laver avant chaque prière.
Exact.
Et puis, quand une femme elle est indisposée, dès que ses règles sont terminées, si je peux m'exprimer ainsi, elle doit absolument partir au hammam et faire un rituel particulier pour se purifier. Et puis, je pense que de manière générale, l'ambiance générale du hammam, avec ce calme, avec cette vapeur, avec cette lumière tamisée, sont réellement des lieux propices pour aussi prendre du recul vis-à-vis de pas mal de choses et pour se purifier de l'intérieur comme de l'extérieur. Mmh. Généralement, dans mon parcours, il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui venaient à Mam pour prendre certaines décisions. Même si cela peut paraître bizarre, mais c'est un temps de répit, de repos où tout s'arrête et où on peut se remettre en question, où on peut retrouver une certaine zénitude et où cette purification justement donne lieu à beaucoup de clarté dans sa pensée et de plénitude aussi. Le hammam, en dehors de son côté hygiène, qui est absolument loin d'être négligeable, et c'est pour cela que les hammams sont assez nombreux dans toutes les villes des pays orientaux, dans les quartiers. Aujourd'hui, ils ont inondé les hôtels, les spas, etc., pour leur côté hygiène et pour leur côté bien-être. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'ils apportent beaucoup à la santé. L'eau est déjà par définition le milieu naturel de l'homme dans lequel il baigne dans le ventre de maternel avant de sortir au monde extérieur. C'est pour cela que l'eau des thermes est bénéfique en fonction bien sûr de la richesse de cette eau de source, l'eau de mer aussi par sa richesse en sels minéraux et oligo-éléments. Et le bain mort est une pratique qui peut être préventive comme elle peut être curative.
Tout à fait.
Le hammam, avec son procédé de vapeur, de gommage du corps, d'étirement, des manipulations des différentes parties du corps, a de nombreuses vertus. Il apaise le mental, il détoxifie le corps grâce à l'exfoliation de la peau avec le fameux savon noir, il régénère le derme, il calme aussi les douleurs articulaires et musculaires, vous voyez, surtout dû à tout ce qui est refroidissement, changement de saison, etc. Et il y a aussi l'utilisation millénaire de cette argile naturelle qu'on appelle le rasoul et qui a vraiment plusieurs bienfaits et qui a aussi plusieurs utilisations parce qu'on l'utilise pour minéraliser la peau du corps comme un masque, mais on l'utilise également comme un shampoing pour le cuir chevelu parce qu'elle calme les irritations du cuir chevelu. Et moi-même, toute petite, maman me lavait les cheveux avec la crème de rasoul.
Les recettes de rasoul, la terre qui lave, sont même très familiales. Est-ce que tu peux nous dévoiler la recette de ta mère? Parce que ces recettes sont effectivement des héritages familiaux et des héritages très féminins.
Écoute, du peu que je m'en souvienne, je me rappelle que maman, elle étalait des pierres de rasoul. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque, et sur la terrasse, bien au soleil, quelques jours, et qu'elle passait de temps en temps, et elle les arrosait avec de la fleur d'oranger et de la rose. Et au bout d'un certain moment, elle rajoutait aussi des boutons de rose parfumés. Et après ça, elle ramassait le tout, elle le mettait dans des boîtes. Et avant d'aller au hammam, elle préparait son mélange en rajoutant de l'eau chaude et une huile, soit à l'époque de l'huile d'olive, soit de l'huile de sésame, soit... Maman, elle adorait l'huile de noisette, mais légèrement, uniquement pour adoucir. Au Maroc, je pense qu'on rajoute une petite goutte d'huile d'argan parce qu'on évite de graisser le produit pour qu'on puisse bien l'appliquer et l'enlever facilement. Mmh. Voilà.
Je te rejoins, le hammam effectivement est celui qui a donné les lettres de noblesse de la santé. C'est Avicenne, ce grand médecin philosophe qui s'appelait Ibn Sina, de son nom d'origine. Et effectivement, il maîtrisait bien sûr la médecine, l'astronomie, la psychologie, les mathématiques et la mystique de l'islam, bien sûr. Donc, effectivement, au-delà de ce parcours d'hygiène, de pureté, effectivement, il y a une tradition médicale très affirmée. Et justement, j'aimerais bien que tu me parles de cette tradition post-accouchement, quand la femme est à son septième jour après l'accouchement. Est-ce que tu peux justement nous rappeler ce qui se passe dans le hammam Asma?
Alors, il faut dire que depuis peut-être l'Antiquité à ce jour, ce rituel n'a pas beaucoup changé, puisque même moi, quand j'ai eu mes enfants, la veille de l'accouchement, le rituel du hammam est presque obligatoire. Mais en fait, ce n'est pas une obligation, c'est un plaisir. Et donc, on prépare le hammam de la future maman, qui est accompagnée par quelqu'un pour l'aider. Et on lui fait un bain très spécial, parfumé, dans la douceur. On lui fait son épilation, on lui arrange ses ongles, on lui parfume ses cheveux, comme si elle était prête à recevoir quelque chose. Et en effet, elle est prête à recevoir la naissance de son enfant, ce qui n'est pas négligeable. Après l'accouchement, le hammam, c'est presque une obsession pour les jeunes mamans parce qu'elles n'attendent que ça, elles n'attendent que ce moment de bonheur, de chaleur, un moment où on s'occupe d'elles, vu l'état de fatigue aussi d'une jeune maman. Et en fait, c'est pas vraiment 7 jours après l'accouchement, c'est au retour des couches, une fois que la femme a arrêté de saigner. À ce moment-là, le hammam est indispensable. Et quand j'étais petite, je voyais des femmes, les praticiennes hammam, faire des manipulations dans le hammam, et je ne comprenais pas cela. Et par la suite, j'ai posé une question, et avant qu'on me fasse à moi-même ces manipulations-là, on m'a appris que ce sont des manipulations utiles pour remettre le bassin à sa place. Aujourd'hui, je comprends que ces manipulations, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui de l'ostéopathie, parce que la grossesse, elle apporte beaucoup de changements à la femme et surtout au bassin de la femme. Et donc, c'est une manière de le remettre en place par des manipulations, en fait, vraiment ancestrales.
Oui.
Voilà.
Est-ce que, justement, Asma, tu pourrais nous partager finalement comment toi tu composes ton rituel de l'Orient, comment toi tu le déclines, comment tu fais vivre finalement la tradition à travers toi?
J'ai appris de maman, quand je la voyais faire le matin, parce qu'à l'époque, en fait, les femmes ne disposaient pas de tant de produits cosmétiques qu'aujourd'hui, et donc elle avait ses petites recettes miracles qui s'appuyaient sur ses propres mains et sur quelques recettes artisanales. Et donc, la chose que j'ai retenue, c'est que le matin, et que je fais jusqu'à ce jour, tous les matins, je pratique un massage manuel sur mon visage. Et donc, je le pince, et j'ai su après que ce sont les pincements jaquets. Je le masse dans le sens du drainage, et j'ai compris par la suite, de par justement la profession que j'exerce, que c'est des mouvements de drainage. Et déjà, on réveille tout de suite l'éclat de la peau. Alors, bien sûr, j'hydrate ma peau le matin comme tout le monde, mais je suis toujours sensible à des petits détails tels que le parfum dans la chevelure. Je trouve ça très sensuel et c'est très oriental et toujours avec une note boisée. Je parfume mon corps avant de m'habiller et ça aussi j'adore et ça fait partie de mon rituel. Toute la journée, je suis toujours en train de guetter le moindre petit détail. Est-ce que j'ai hydraté mes mains? Est-ce que j'ai parfumé mes cheveux? Je rajoute un petit peu de temps en temps d'élixir boisé, en fait, ou d'essence de parfum derrière mes tempes pour être à l'abri un peu du soleil. Et puis, le soir, c'est un moment très important pour moi parce que le soir, c'est là où je m'occupe un peu de ma personne. D'abord, je brosse correctement mes cheveux, parce qu'il est utile de mentionner que brosser ses cheveux et les masser manuellement, ça évite la chute de cheveux et ça stimule un peu le cuir chevelu. Je les parfume, même si c'est pour le soir, et je le fais pour moi, franchement, pour mon moral, quoi. C'est vraiment un rituel que je fais pour ma propre personne. Je me démaquille correctement parce qu'on sait très bien que c'est le meilleur moyen de garder une peau saine. Et après, j'ai un rituel qui est très simple le soir, c'est que j'asperge mon visage avec de l'eau de rose organique. Et d'abord, c'est une sensation de fraîcheur extraordinaire. Et puis, bon, c'est un cadeau de la nature que je saisis. Je laisse ma peau absorber cette eau de rose. Et après, je prends quelques gouttes d'élixir d'argan ou d'élixir de figue de Barbarie et je masse mon visage et mon cou tous les soirs. Généralement, je commence par une cure d'élixir d'argan parce que la figue de Barbarie, c'est vraiment un puissant antioxydant, anti-âge. Il favorise l'hydratation intense de la peau. Il est très connu pour l'élasticité aussi de la peau, pour la favoriser. Donc, il est plus conseillé pour des peaux matures, disons. Et après, quand je vais vers mon lit, le rituel ne se termine pas parce que j'hydrate mes pieds, je les masse un petit peu, j'hydrate mes mains et je n'oublie jamais de mettre une ou deux petites gouttes d'huile essentielle sur mon oreiller. Généralement, je vais vers la lavande.
Asma, est-ce que tu peux nous reparler de ces grands moments dans le hammam et nous inviter avec chaque étape, avec le produit en fait que nous allons utiliser pour magnifier la peau, pour se détendre et finalement à la fin tu pourras nous préciser pourquoi la praticienne va prononcer le Bessa Huhara à la fin du soin.
Le quoi, pardon ?
Le bonne santé et longue vie.
Ah oui.
Bessa excuse-moi.
Exactement, il n'y a pas de problème.
Voilà.
Bah, écoute, parler des grands rituels du hammam, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir parce que j'aime beaucoup crier des rituels du hammam parce que j'ai baigné depuis toute petite là-dedans. Notons qu'il existe d'abord la version simple, classique et universelle qui consiste à appliquer le savon noir sur une peau humide, cette préparation de savon à base d'huile d'olive.
Saponifié.
Tout à fait. Qu'on pose sur la peau un tout petit moment dans une ambiance de vapeur pour aider les pores à s'ouvrir. Et ensuite, on rince la personne avec de l'eau et on commence le gommage avec ce gant de crin connu sous le nom de gant de Kassa. Après cette étape, il y a une sorte d'exfoliation du corps où on enlève les peaux mortes pour oxygéner justement la peau et la régénérer. Après cela, il y a l'application du rasoul. Et en fait, vraiment, quand j'ai fait un retour sur ces étapes, j'ai compris que chaque étape était vraiment justifiée parce qu'avec la chaleur et la vapeur, on aide les pores du corps à s'ouvrir. Et donc, on gomme et on enlève les peaux mortes. Mais quand on enlève les peaux mortes et on gomme, il y a les pores qui sont ouverts. Donc, pour éviter d'attraper certaines maladies, on aseptise et on minéralise avec le rasoul cette argile naturelle qu'on applique sur le corps. Après, on lave les cheveux. À l'époque, on lavait les cheveux avec des produits naturels aussi à base d'argile. Aujourd'hui, les choses changent pour une question de pratique. Voilà. Et après, on se rince et on sort de son hammam. Mais il y a aussi le hammam qu'il ne faut pas oublier de citer, qui est le hammam de la mariée, qui est très important. Parce que le hammam de la mariée, c'est carrément une célébration où la future mariée invite ses amis d'enfance, ses cousines, la famille, la belle famille, et tout se fait avec les youyou, avec la musique, c'est très festif. Et là, bien sûr, on se régale parce que le savon noir est à ce moment-là mélangé au henné. Le rasoul est parfumé à la rose et à l'ambre, etc., avant de le passer sur l'ensemble du corps. On utilise aussi des masques corps à base du miel, et c'est un masque qui est en même temps gommant grâce au gain du miel, et ça aseptise la peau et ça l'adoucit. Après, on passe aux pieds aussi, on les frotte avec du sel et du citron, et on les masse orteil par orteil, d'où vraiment une sensation de relaxation extraordinaire. On lave les cheveux avec la crème de rasoul parce que la crème de rasoul donne une très belle brillance à la chevelure. On peigne les cheveux en les démêlant avec un soupçon d'huile toujours parfumée, boisée et sensuelle. Et puis, on rince tout le corps avec de l'eau parfumée, généralement à la fleur d'oranger. Nous avons aussi cette tradition d'utiliser le lance-parfum qui est rempli avec de l'eau de rose. Et quand la personne elle finit son bain, donc on lui en met sur le visage, sur le corps, etc. Et ce rituel ne se termine pas dans l'enceinte du hammam, mais il accompagne donc la mariée et ses invités jusqu'à l'espace de repos, où on présente toujours le grand plateau de thé, magnifiquement décoré, avec des dattes, avec des gâteaux sucrés, des gâteaux donc traditionnels, des fruits secs, des dattes surtout, parce que ça porte bonheur. Et puis la cérémonie de l'encens au santal ou à d'autres mélanges d'encens à base de résine et de bois qu'on fait passer au-dessus des cheveux et de tout le corps dans un mouvement circulaire presque céleste.
C'est, comment dirais-je, ce rite de passage, je trouve, est juste merveilleux avec cette empreinte très spirituelle, justement, dans la manière dont tu le racontes et tu nous le transmets. Et justement, à la fin de chaque hammam, je me rappelle que les femmes au Maroc me souhaitaient bonne santé et longue vie. Est-ce que justement, on pourrait se fêter ensemble, toi en arabe, moi en français, bonne santé et longue vie?
Bien sûr, je vous souhaite saha ou raha, ce qui veut dire santé et plénitude. Et voilà. La longue vie sans la plénitude serait beaucoup moins épanouissante. Voilà.
Merci beaucoup, Asma, de nous avoir fait vivre ce moment très doux de cette tradition si sensorielle, si belle.
Merci à vous, Nathalie. Et je dois dire que le hammam, en effet, se décline sous plusieurs versions, mais ça reste toujours quelque chose qui dépasse l'hygiène du bain. Je pense que ça a une dimension, comme déjà cité, spirituelle, céleste et qui est toujours up to date, c'est-à-dire qui est toujours valable depuis la nuit des temps à ce jour et qui apporte toujours beaucoup de repos, de relaxation et de bonheur à la personne qui le fait.
Merci, Asma.
Merci d'avoir écouté ce podcast et de vous être offert cette parenthèse de bien-être et de douceur dans votre quotidien surchargé. Si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous laisser des étoiles, 5 de préférence, sur votre application de podcast préférée. Et si les valeurs et la philosophie incarnées par 5 mondes vous parlent, vous pouvez nous suivre sur Instagram, @5mondes, tout attaché. Et même réserver votre premier soin en cliquant sur le lien en description.